Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi. Une émission préparée ce matin par Samuel Bernard, mais aussi Marguerite Caton, Mélanie Chalandon, Corentin Mansoir, réalisée par Vincent Abouchard et mise en onde ce matin par Jean Frédérics. Nouvelle série donc consacrée au Rwanda, alors que la fin de la semaine sera marquée par les commémorations du génocide de 1994. 25 ans après, nous allons nous intéresser donc à ce nouveau Rwanda. On essaiera de mesurer le chemin parcouru en termes politiques, économiques, sociaux, sociétals. Mais pour commencer, évidemment, il nous faut nous tourner vers le passé et nous allons parler ce matin de politique mémorielle.
Historical clarity is a duty.
La clarté historique est un devoir mémoriel auquel nous ne pouvons pas échapper.
Behind the words, never again.
Derrière les mots « jamais plus », il y a un récit dont la vérité ne doit pas être occultée, et peu importe si celle-ci se révèle dérangeante. Les personnes qui ont planifié et accompli le génocide étaient des Rwandais, mais l'histoire et les racines de celui-ci dépassent ce beau pays.
Go beyond this beautiful country. This is why Rwandans continue.
C'est pourquoi les Rwandais continuent de chercher les explications les plus complètes quant à ce qui s'est produit.
Possible for what happened.
Voilà, extrait du discours de Paul Kagame, c'était en avril 2014, lors des commémorations des 20 ans donc du génocide. Dans quelques jours, le président rwandais Paul Kagame allumera la flamme du souvenir dans le mémorial de Kigali, où les restes de plus de 250 000 victimes du génocide sont enterrés. Puis le chef de l'État assistera à une cérémonie au stade Amahoro. Si chaque année, pendant cette période, les Rwandais vivent au rythme des commémorations, 25 ans après les événements qui ont provoqué entre 800 000 et 1 million de victimes, le souvenir de la tragédie reste extrêmement prégnant au plus profond du quotidien des habitants. Alors comment les Rwandais se souviennent-ils de ces événements? Comment le génocide est-il enseigné à l'école? Monuments, archives, recherches? Quelles sont les institutions en charge de perpétuer cette mémoire? Quels sont les documents rendant compte de l'événement? Comment sont-ils utilisés aussi pour construire la politique mémorielle rwandaise, mais aussi peut-être pour légitimer le pouvoir en place? Pour évoquer toutes ces questions, nous avons invité ce matin Rémi Corman. Bonjour.
Bonjour.
Merci infiniment d'être avec nous ce matin. Vous êtes doctorant en histoire à l'École des hautes études en sciences sociales. Vous êtes également enseignant à l'Université catholique de l'Oise et vous une thèse sur la construction de la mémoire du génocide des Tutsis au Rwanda. Vous avez vécu 3 ans sur place pour faire cette thèse, mais vous y êtes rendu sur place évidemment à de maintes reprises. Également avec nous en duplex de l'AE, François-Xavier Sansouera, bonjour.
Bonjour monsieur.
Merci infiniment d'être avec nous ce matin monsieur. Vous êtes magistrat procureur à Kigali au moment du déclenchement du génocide en avril 94 et puis vous avez été également membre de l'équipe du procureur au tribunal pénal international pour le Rwanda à Arusha et puis auteur de cet ouvrage L'abattante, renaître après le génocide des Tutsis qui était paru aux éditions Fauve. Je vais commencer avec vous François-Xavier Nsonsouera et peut-être pas directement sur la politique mémorielle mais sur les commémorations de façon générale. Il se trouve que le Rwanda comptait sur la présence du président français pour ces commémorations. Il se trouve qu'il a décliné l'invitation sans donner de raison précise et que l'État français sera représenté par un député, Hervé Berville, qui est un orphelin d'origine rwandaise et qui avait été adopté par une famille française en 1994. Que vous inspire, monsieur Sansouera, l'absence du président français pour les commémorations du 25e anniversaire du génocide Tutsi?
Je trouve ça dommage. Bon, moi, j'avais espéré que le président français cela là-bas, parce que j'avais une bonne impression que les relations entre ma patrie d'origine et la France étaient devenues bonnes avec l'arrivée de M. Macron au pouvoir, bon, qui décide de se faire représenter par un député, même s'il est d'origine rwandaise. Personnellement, je ne suis pas très satisfait. Quoi.
Vous avez l'impression qu'on revient un peu en arrière. Nicolas Sarkozy, on s'en souvient, s'était rendu au Rwanda. Il avait même reconnu des erreurs d'appréciation de la France. Vous avez l'impression qu'on revient en arrière?
Oui, c'est mon impression. Je ne suis pas très fort en politique. Je suis juriste de formation et magistrat de carrière. Donc, bon, en général, j'évite la politique, mais bon, je suis profondément déçu. Quoi. Ouais. J'ai l'impression qu'on va en arrière.
Et est-ce que vous avez l'impression que sur un autre volet, on avance, et je pense aux relations entre le Rwanda et la RDC? Parce qu'il se trouve que le nouveau président congolais, Félix Tshisekedi, lui, est présent. Il s'est même rendu au mémorial. On se souvient que le génocide, évidemment, avait produit une forte déstabilisation en RDC. D'ailleurs, cette visite au mémorial, elle a été diversement appréciée, et en particulier du côté de la RDC, où on accuse le Rwanda d'être à l'origine des conflit entre 1996 et 2003. Vous pensez que là, c'est un geste à saluer pour le coup? On a une vraie avancée avec l'arrivée de Tshisekedi qui est peut-être de nature à engager une normalisation des relations entre les deux pays? Vous y croyez?
Absolument. Je trouve le geste du président Tshisekedi très positif et très courageux d'ailleurs. Parce que, comme vous le savez, vous avez vu qu'une partie de l'opinion publique congolaise a critiqué sa visite au Rwanda, mais c'est un signe positif. Et comme vous le savez, avant le génocide commis contre les Tutsis, il y avait, je dirais, une proximité entre les populations aux frontières. Donc les Rwandais de Gisenyi allaient facilement à Goma. Du côté de Tshangugu et Bukavu, la même chose. Donc je pense que la visite du président congolais va renforcer cette relation de bon voisinage. Donc c'est un geste très positif de la part du président Tshisekedi.
En tout cas, c'est historique. C'est une première depuis 1994. Ouais, ouais. Rémi Corman.
Moi, j'étais très content. Ouais. Ouais.
Rémi Corman, alors je ne sais pas si vous voulez réagir à l'absence d'Emmanuel Macron et la présence de Tshisekedi. En tout cas, j'avais noté dans l'un des articles que vous avez écrit sur la politique mémorielle qu'on va évoquer assez largement aujourd'hui, vous aviez écrit la chose suivante. Faut-il continuer à mobiliser la mémoire? Vous interrogez à l'époque sur l'avenir de la politique mémorielle de Kagame. Vous disiez, faut-il continuer à mobiliser la mémoire de l'événement, celle-ci constituant un des principaux piliers de la légitimation du pouvoir, ou faut-il la démobiliser dans la perspective d'une nouvelle étape à franchir au niveau international? Est-ce que peut-être cette visite de Tshisekedi a cette ambition de normaliser les relations avec la RDC? Et au fond, est-ce qu'on est dans ce que vous décrivez, c'est-à-dire le début d'une forme de démobilisation de cette mémoire-là, peut-être pour rentrer dans un nouveau rapport avec son voisinage?
J'allais dire, c'est une large question, parce que la question de la place de la mémoire du génocide au niveau politique, symbolique, culturel et social, elle est très large. D'un côté, il y a la volonté pour le Rwanda, pour les autorités, de sortir du génocide, c'est-à-dire de montrer qu'on n'est plus en 94, de montrer qu'il n'y a pas que le génocide, c'est-à-dire d'un point de vue de représentation du Rwanda, et en même temps, au-delà de la légitimité politique, c'est le fondement de la nouvelle nation. C'est-à-dire que si on regarde la constitution rwandaise, la nouvelle constitution rwandaise de 2003, le génocide, le mot est un peu partout, et tout un tas d'institutions y sont liées. Donc d'un côté, il y a la volonté de le démobiliser, et en même temps, c'est pas possible, c'est-à-dire que ça fait vraiment partie de cette nouvelle nation. Après, sur le lien avec la diplomatie, je suis pas sûr que ce soit totalement lié. Mmh. Donc là, on voit qu'il y a une amélioration actuelle entre le Rwanda et la RDC. Il y a une histoire très très large sur ces questions, qui est d'ailleurs des fois un petit peu simplifiée, parce que je donne un exemple très concret là sur les questions mémorielles. Dans les acteurs ou les universitaires rwandais très importants qui ont travaillé sur la mémoire du génocide après 1994, beaucoup étaient des Rwandais Tutsis qui en fait avaient fui au Zaïre et avaient vécu 20 ou 30 ans au Zaïre pendant longtemps. Donc pour eux, ils sont et Congolais et Rwandais. Donc on en fait des fois des histoires séparées, mais au niveau des acteurs, du fait de la question des réfugiés, etc., il y a beaucoup de liens communs.
Et sur la politique mémorielle, est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui on est en train de basculer dans autre chose? Cette année, il y a toujours un thème pour les commémorations. Cette année, le thème, c'est souvenir, unité et renouveau. Et on met l'accent en particulier sur cette génération, cette jeunesse post-génocide qui n'a pas vécu justement ces événements. Est-ce qu'il vous semble que là, on est en train de basculer dans une nouvelle ère mémorielle?
Il y a une évolution, mais progressive en fait, pour les questions mémorielles, qui est vraiment flagrante, je trouve, après 2009. C'est-à-dire que, à partir de 2010, par exemple, même 2009, il y a la question de l'espoir qui apparaît dans les commémorations, avec l'idée de la nouvelle génération, avec même des témoignages de personnes qui n'ont pas vécu le génocide. Donc là, vraiment, on rentrait dans une nouvelle période de ce point de vue-là. Il y a une autre dimension, c'est que la politique mémorielle au Rwanda, ne concerne plus que le génocide. C'est-à-dire que pendant longtemps, en fait, la politique mémorielle était vraiment centrée autour de la question du génocide des Tutsis. Maintenant, il y a d'autres éléments qui rentrent en jeu. Il y a la question, on va dire, de la guerre, avec par exemple les premiers musées autour de la guerre, ce qui sont apparus en 2014. Il y a une autre dimension qui me semble importante, c'est que il y a par exemple une commission des héros qui a pour but de créer une sorte de panthéon national, ce qui est un classique dans le nationalisme, qui est devenu très très grand sur les 5 dernières années. Donc il y a aussi la volonté justement d'élargir la politique mémorielle à d'autres enjeux et à un nationalisme fort qui se veut renouveau.
On va refaire évidemment ensemble, Rémi Korman, l'histoire de cette politique mémorielle rwandaise depuis 1994, parce qu'on va voir que, en fait, très vite, ça va être une préoccupation du gouvernement. Mais François-Xavier Nsansouéra, votre impression sur ce qui est en train de se passer aujourd'hui, et en particulier le choix de ce thème des commémorations des 25 ans, souvenir, unité et renouveau, est-ce que vous avez le sentiment qu'avec cet accent qui est mis sur les nouvelles générations, celles qui n'ont pas connu justement cet événement, on est en train de basculer dans autre chose et qu'au fond, la politique mémorielle rwandaise n'est plus ce qu'elle a été?
Bon, moi je pense qu'elle a... bon, c'est pas ma spécialité, mais je pense qu'à l'intérêt du pays, à l'intérêt du Rwanda, les premières années, on a beaucoup insisté sur la mémoire du génocide commis contre les Tutsis. Et puis petit à petit, on a aussi reconnu les Hutus qui ont été tués parce qu'ils s'opposaient au génocide des Tutsis. Je pense par exemple au leader politique de l'ancienne opposition au président Habyarimana. Si ma mémoire est bonne, je pense que le 13 avril, on commémore aussi l'assassinat de ce leader politique Hutu qui était opposé à la politique d'exclusion du président Habyarimana et qui était opposé au génocide. Donc, si vous vous souvenez bien, on a commencé par tuer les leaders politiques autour de l'opposition, ceux qui pouvaient s'opposer au génocide. Donc aujourd'hui, on est dans une mémoire collective qui construit un pays qui appartient à toutes les communautés. Donc j'ai l'impression qu'on reprend tout ce qui unit le Rwandais pour arriver à une nation dans laquelle toutes les communautés, tous les Rwandais se reconnaissent comme Rwandais. Ça, c'est le constat que je fais à l'intérieur du pays quand je visite mon pays d'origine, puisque je vis en Belgique depuis 1995.
Vous avez l'impression qu'il y a aujourd'hui un effort d'unité plus fort peut-être qu'il y a 20 ans?
Oui. Mais par contre, mon inquiétude concerne la diaspora rwandaise à l'extérieur du Rwanda, en Belgique, en France et ailleurs, où la deuxième génération, surtout les enfants des anciens leaders Hutu de la première et de la deuxième république, essayent et ils portent une autre mémoire. Tout en reconnaissant le génocide des Tutsis, ils se battent pour la reconnaissance d'un prétendu génocide des Hutus. Donc, c'est une façon, c'est une façon de nier le génocide des Tutsis en se battant pour un double génocide. Et là, il y a un problème dans la mesure où j'ai l'impression que cette deuxième génération des enfants proches des génocidaires croit être héritier du passé de leurs parents. Les Hutus, les extrémistes Hutus, ont commis le génocide à leur nom. Les Hutus ne doivent pas porter cet héritage. Mais j'ai la triste impression que les enfants des génocidaires ou de leurs partisans au sein de la diaspora veulent porter cet héritage et se lancent dans une mémoire, je dirais, négationniste, mais très intelligente, dans la mesure où ils ne nient pas le génocide des Tutsis, mais ils se battent pour la reconnaissance d'un prétendu génocide de Hutu. Et là, c'est... Bon, ça fausse, je dirais, ou ça met en danger l'espoir qu'on commençait à avoir vraiment un Rwanda nouveau qui inclut tous ses fils et filles.
Rémi Corman, peut-être là je voudrais vous entendre, François-Xavier Nsonsouvera a utilisé un terme sur lequel il faut absolument rebondir, c'est celui de négationnisme. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire le négationnisme Rwanda? Est-ce qu'il existe? Comment il s'illustre? Quelle forme il prend? Est-ce que vous diriez qu'effectivement aujourd'hui il existe une forme de négationnisme vis-à-vis du génocide Tutsi rwandais? Et puis ensuite on reviendra peut-être sur la question de l'unité dans les politiques mémorielles, savoir si effectivement il y a eu une évolution de ce point de vue-là. Rémi Corman.
D'abord sur la question du négationnisme, c'est inhérent déjà au génocide en lui-même. C'est-à-dire que la négation, elle se joue en même temps que le génocide. Et tout de suite après, on a les premiers écrits négationnistes qui apparaissent ou en Europe ou par ceux qui ont commis le génocide lui-même avec des publications qui apparaissent dès 94. Il a quand même très largement évolué. Alors, si on prend la question du négationnisme au Rwanda, on ne peut pas dire qu'il existe. Il n'y a pas un négationnisme au Rwanda avec une mémoire négationniste, etc. Ça n'existe pas. Il y a des lois d'ailleurs assez strictes sur ces questions-là au Rwanda. Ce négationnisme, il se développe en dehors. Et principalement dans la diaspora, où soit chez ceux qui ont commis le génocide, soit ça peut être dans la nouvelle génération, ou soit chez des personnes qui travaillent sur le sujet. J'ai quand même tendance à penser qu'il est beaucoup moins fort. C'est à discuter, mais quand on voit par exemple la situation en France, il y a plus de débat politique sur la reconnaissance du génocide des Tutsis. C'est-à-dire que en 20 ans, il y a eu une reconnaissance complète du génocide des Tutsis. Le 7 avril, c'est la journée internationale de commémoration du génocide des Tutsis pour l'ONU. Donc on n'est quand même pas du tout dans la même situation. Après, il y a un négationnisme qui reste, contre lequel c'est toujours difficile pour un historien de dire comment on le combat, parce qu'à mon avis, on ne peut pas combattre un négationnisme en allant directement dessus. On le combat en écrivant l'histoire.
Alors justement, Rémi Corman, vous avez écrit un article absolument passionnant intitulé « L'État rwandais et la mémoire du génocide ». Vous y racontez qu'au lendemain du génocide, le nouveau gouvernement national se met en place, qu'il est confronté à des défis absolument immenses, et que donc la question de la mémoire n'apparaît pas forcément comme une priorité. Et pourtant, l'État rwandais, le gouvernement rwandais va immédiatement prendre en charge cette mémoire collective du génocide. Alors, je voudrais comprendre, au fond, comment se fait-il que si vite on la prenne en charge, on peut trouver ça formidable et ça l'est d'une certaine manière, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi peut-être là quelque chose de l'ordre de l'instrumentalisation, je mets des guillemets, mais il va falloir y réfléchir, de cette mémoire-là? Et puis vous dites que très vite, en réalité, on voit les enjeux mémoriels se mettent en place. En moins de 3 mois, dites-vous, après la fin du massacre, les éléments de débat sur les enjeux mémoriels sont déjà en place. Nous dire justement quels sont ces enjeux. Et puis ensuite, on redonnera la parole à François-Xavier Nsonsouvera. Rémi Corman.
Peut-être la première chose, c'est de se dire que le mot mémoire, il est toujours compliqué. Et donc, il y a tout ce qui relève de la politique de mémoire. Et il y a, c'est-à-dire avec l'État, le gouvernement qui s'occupe de ça. Et il y a tout ce qui relève du souvenir individuel ou plus collectif du génocide. Et sur le cas rwandais, ce qui est compliqué, c'est qu'on peut avoir des hommes politiques qui travaillent ou qui organisent la politique de mémoire qui sont eux-mêmes rescapés. Donc il y a des fois une tendance à dire l'État contre les rescapés ou la politique de mémoire contre la vision des rescapés. C'est un peu plus subtil que ça, en fait. Et c'est ça qui est parfois difficile à expliquer. Elle arrive tout de suite, justement, cette première mémoire après 94, soit par volonté politique. Pour certains, c'est une façon, oui, de légitimer et de rappeler aussi à la communauté internationale ce qui s'est passé. Il y a par exemple des visites diplomatiques importantes au niveau des sites mémoriaux et on montre les corps qui sont encore dans certains sites lors des grandes visites diplomatiques. Ça peut être celle de Boutros-Boutros-Ghali, plus tard de Kofi Annan, etc. Mais il y a aussi une dimension de deuil. Et par exemple, dans les principaux ministres qui ont engagé des projets de musée du génocide dès 1995, ils étaient eux-mêmes rescapés du génocide. Donc c'est toujours un entre-deux sur ces questions-là. Après, très rapidement, il y a un enjeu, c'est de faire un récit et de montrer le génocide des Tutsis par des musées, des mémoriaux, la volonté de réécrire l'histoire qui vient tout de suite, réécrire une nouvelle histoire par rapport à celle qui était enseignée auparavant.
Mais les sites, les mémoriaux viennent pas tout de suite. Il y a d'abord un premier tournant qui est la deuxième commémoration de 96, où là vous dites qu'il y a quelque chose qui se passe à ce moment-là.
En fait, oui et non. C'est-à-dire qu'il y a un tournant en 96 parce qu'il y a une commémoration du génocide à Morumbi, où on va dire qu'il y a des cadavres qui sont momifiés, montrés sur ce site-là. Mais en fait, j'ai envie de dire que même pendant le génocide, quand les journalistes accompagnent, par exemple, le Front Patriotique Rwandais, ils visitent des sites de massacre. Et certains de ces sites de massacre n'ont pas été changés, c'est-à-dire que, par exemple les corps n'ont pas forcément été inhumés et donc sont devenus des mémoriaux tout de suite, de fait, sans muséographie, etc. Mais ils sont des mémoriaux parce que il y a un usage de ce type. C'est-à-dire de deuil et en même temps un usage politique.
François-Xavier Nsonsouéra sur l'usage peut-être politique de ces politiques mémorielles dès
1994. Je pense que l'usage des politiques, comme vous le dites, c'est important parce que le pays venait justement de sortir du génocide des Tutsis. Les auteurs de ce génocide continuent à le nier. Donc, il fallait l'appeler cette triste réalité. Donc, là, le génocide des Tutsis. Donc, il fallait construire cette mémoire, j'ai envie de dire, positive, et de rappeler ce qui a amené à ce génocide des Tutsis. La société rwandaise était encore très, très fragile. Il fallait que le politique s'y mette. Si vous me permettez, je voudrais dire que pour les rescapés du génocide, j'ai envie de dire, ils n'ont pas besoin de mémoire. Parce que le génocide, ils revivent toujours. C'est une blessure béante. Je dis souvent que tous les événements de la vie au quotidien rappellent au rescapé le génocide, dans la mesure où, quand vous assistez à un mariage, vous dites « Ah, si ma sœur avait survécu, elle aurait le même âge. Si mon frère était là, il aurait le même âge. » Donc, tous les événements de la vie vous rappellent vos proches qui sont partis. Donc, pour les rescapés, la mémoire du génocide, elle est là, elle est inscrite dans leur corps, ça coule dans leur sang, toute la vie leur rappelle le génocide. Mais pour l'État, pour la nation, c'est un devoir, je dirais, primordial de survie. Il fallait reconstruire cette nation et il faut continuer parce que on ne peut pas dire aujourd'hui qu'on ne peut pas revivre ce genre d'événement, l'homme est l'homme. Donc, je pense qu'il faut continuer. Il faut continuer de construire cette mémoire. Et les critiques que j'entends souvent, c'est de dire cette mémoire, comment dire, est le fondement du pouvoir politique actuel. Je pense que oui, parce que il faut que le pouvoir arrive à construire une nation où les différentes communautés, même si c'est difficile de nier l'existence des communautés, mais il faut qu'elles parviennent à se reconnaître comme Rwandais.
Si je vous entends bien, vous reconnaissez le fait qu'une grande partie, disons, de la légitimité du pouvoir actuel repose justement sur cette mémoire du génocide des Tutsis au Rwanda, mais qu'en même temps, c'est un passage obligé et que on ne peut pas faire autrement, c'est ça que je dois comprendre?
Oui, c'est un passage obligé dans la mesure où il faut éviter qu'on rebascule dans le passé. Et comme je disais, les auteurs du génocide et même certains de leurs enfants continuent dans cette logique justement qui nous a amenés au génocide des Tutsis. Donc, c'est important que le pouvoir actuel continue d'être vigilant.
Rémi Korman, peut-être vous entendre sur ce point-là et pour voir aussi comment on assoit une légitimité à travers une politique mémorielle. Peut-être qu'on peut prendre un exemple. Moi, il y a une chose que j'ai retenue dans vos écrits, notamment, c'est ce que vous racontez au moment de la deuxième commémoration du génocide, quand il va y avoir un conflit entre l'État rwandais et l'Église, de très fortes dissensions. Peut-être pour nous expliquer un peu ce qui va se passer à ce moment-là, parce que ça va provoquer une forme de transformation de la manière dont on commémore les choses. Vous dites qu'il va y avoir une véritable liturgie laïque de la mémoire du génocide. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Et est-ce qu'on peut dire qu'au fond, ce qu'il y a aussi derrière tout ça, c'est une manière de, sinon d'écarter, en tout cas d'affaiblir politiquement l'Église, puisqu'on parle là de légitimité du pouvoir. Est-ce qu'il s'agit aussi de ça? Essayons de démêler un peu les choses, Rémi Korman.
Alors là, d'abord, historiquement, il faut rappeler que l'Église catholique a toujours été extrêmement forte au Rwanda. C'est-à-dire, quand je dis extrêmement forte, c'est-à-dire totalement liée au pouvoir. Le Rwanda était censé être le pays du Christ roi au début des années 30. Et vraiment, au cours de la Première et Deuxième République, il y a un poids spécifique pour l'Église catholique. Les deux fonctionnant très souvent ensemble. Au moment du génocide des Tutsis, il y a beaucoup de débats ou de controverses sur le rôle de l'Église catholique pendant le génocide. C'est assez complexe parce que il y a des prêtres qui ont participé au génocide, il y a plus qu'une ambiguïté du point de vue de la hiérarchie catholique, et en même temps, il y a plusieurs centaines de religieux qui ont été tués pendant le génocide, parce que Tutsi, parce qu'il y avait un nombre important de religieux qui étaient Tutsi pour tout un tas de raisons. Après le génocide, très clairement, pour le nouveau gouvernement d'Union nationale, et en particulier le Front patriotique rwandais, il y a l'idée qu'il faut que l'Église ait une autre place. Parce que celle-ci avait un poids fort, par exemple sur la question scolaire, c'est-à-dire que la majorité des écoles étaient liées à l'Église. Et il y a eu un conflit en fait sur les questions mémorielles, c'est-à-dire, pour le dire très rapidement, sur les sites mémoriaux, il y a près d'une cinquantaine d'églises qui ont été des sites de massacre. Et l'un des conflits, c'était de savoir si ces églises allaient devenir des mémoriaux, être déconsacré, ou le culte allait pouvoir reprendre de façon normale. Et là, c'était un débat sur, finalement, est-ce qu'on peut reprendre à la normale après le génocide, ou est-ce qu'il faut faire un effort de mémoire spécifique. Et ces premières années sont très difficiles là-dessus, parce que même au sein de l'Église, il y a un désaccord. Est-ce qu'il faut faire un effort de mémoire? Est-ce qu'il y a des responsabilités dans l'Église ou non?
Il faut absolument, bien sûr, qu'on parle de la question des archives, Rémi Corman, François-Xavier Nsansouwera. Pour ce faire, on va évoquer les tribunaux Gachacha. Alors, pour rappeler aux auditeurs, ils avaient été créés, ces tribunaux, en 2001. C'était des juridictions qui ont permis de juger la très grande partie, au fond, des auteurs présumés du génocide en presque 10 ans. Et c'est évidemment, ces tribunaux, une mémoire absolument colossale. Je propose d'écouter d'abord un petit extrait d'un documentaire d'Anna Guion qui s'intitulait « Mon voisin, mon tueur ».
La façon dont ils venaient nous déposséder de nos enfants pour les tuer. Dans la famille de mon beau-père, ils ont tué 18 personnes.
Et pourquoi pas toi?
À ce moment-là, ils ne tuaient pas encore les femmes. Une fois nos garçons massacrés, ils sont revenus et ont commencé à tuer les femmes. C'était le mercredi 26.
Y a-t-il eu des viols?
Pardon ?
Vous ont-ils violé ?
Non, mais un garçon en prison avait un bout de bois gros comme ça, avec lequel il devait violer les femmes des Tutsis.
Voilà, extrait du documentaire « Mon voisin, mon tueur » d'Anna Guion, qui avait filmé ses tribunaux Gachacha. Il se trouve qu'aujourd'hui, Anna Guion et Assumpta Mugiraneza sont à l'initiative d'utilisation de tout ce fonds d'archives. Rémi Corman, cette question des Gachacha, elle constitue une mémoire absolument colossale. Je crois qu'il y a 60 millions de pages, quelque chose comme ça, qui raconte évidemment tout ce qui s'y est passé. Comment est-ce qu'on peut utiliser tout ça? Est-ce qu'on l'utilise? Je sais qu'il y a des projets à la fois de l'État rwandais, mais aussi, je crois, d'associations, d'ONG, pour essayer de valoriser tout ce fonds-là. Où est-ce qu'on en est, Rémi Corman?
Ce qu'il faut voir, c'est que pendant très longtemps, la question des archives, ça n'a pas été forcément une priorité au Rwanda. Ça a mis assez longtemps à ce que ça devienne vraiment un enjeu de politique publique. Et sur le génocide, la question des traces ou des preuves, elle passait autrement. Il y avait justement la question des mémoriaux, des corps, etc. Mais les archives, ce n'était pas un enjeu majeur. Et depuis justement, on va dire une dizaine d'années, il y a une évolution. Il y a une commission qui est en charge de la mémoire du génocide et qui a en son sein un centre de recherche et de documentation et qui prend en charge cette question-là. Et c'est vrai que les Gachacha, ça a été un processus judiciaire assez incroyable en termes d'ampleur, plus d'un million de procès. Enfin, c'est vraiment... on parle du génocide comme le crime le plus jugé en fait de l'histoire de l'humanité. C'est un défi majeur parce qu'on parle, oui, plus de 60 millions de pages d'archives. Donc il y a des enjeux actuels en fait de numérisation de ces archives. Après, sur la question des usages, on n'en est pas encore là, j'ai envie de dire, parce que pour les historiens, c'est un vrai défi. C'est un corpus démesuré. Après, il y aura, je suis persuadé, des enjeux mémoriels au Rwanda, parce que il y a la façon dont moi j'en parle en tant qu'historien, et puis il y a ce que ça implique pour de nombreux Rwandais qui peuvent être des rescapés ou d'autres Rwandais qui peuvent se dire, voilà, c'est quasiment une archive sur l'histoire de ma famille, sur l'histoire de telle ou telle personne qui a été assassinée. Donc il est possible qu'il y ait un usage généalogique un jour de ce type d'archives.
François-Xavier Nsansouéra, quelle place peut, doit avoir toutes ces archives des Gachacha? Vous avez été, je le disais, je le rappelle pour nos auditeurs, vous êtes magistrat, vous avez été procureur à Kigali au moment du déclenchement du génocide Tutsi, puis ensuite vous avez été membre de l'équipe du procureur au tribunal pénal international pour le Rwanda à Arusha. Que vous inspire justement, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'on peut faire de toutes ces archives, comment est-ce qu'on peut construire une mémoire à partir de tout cela?
Merci beaucoup. Je ne sais pas si le mot que je vais utiliser est juste et approprié, mais j'ai envie de dire que ces archives constituent une richesse extraordinaire dans la mesure où, avec ces archives, on peut écrire l'histoire, je dirais, non contestable du génocide commis contre les Tutsis. Des juristes, bon, certains juristes, surtout les magistrats, ils me souvent dire que la justice n'est pas là pour écrire l'histoire. Mais je pense que oui. Les archives des judiciaires Gachacha, ainsi que d'ailleurs les archives du tribunal pénal international pour Rwanda, sont un outil inconsidérable, primordial, pour écrire l'histoire du génocide. Une histoire, je dirais, qui n'est pas contestée. On parlait justement tout à l'heure de mémoire, de cette mémoire pluriée, de cette mémoire souvent, en fait, qui peut diviser. Mais ces archives-là, de Judizo Gachacha et les archives du tribunal, sont des outils pour écrire l'histoire du génocide que personne ne va contester. Parce que ce soit pour les Judizo Gachacha, que ce soit pour le tribunal pénal international, ce sont les témoins de ces événements, de ce génocide, qui ont écrit cette histoire.
Sauf que donc, précisément, François-Xavier Nsansouéra, précisément, vous parlez du tribunal pénal international pour le Rwanda qui avait été créé à la suite du génocide. Il y a là aussi évidemment des milliers, des centaines de milliers probablement de pages d'archives. Il se trouve que le gouvernement rwandais demande à récupérer toutes ces archives depuis la fermeture officielle sans cesse repoussée du tribunal, considérant que tout cela doit revenir au Rwanda. Sauf que jusqu'ici, le tribunal pénal international pour le Rwanda a refusé de transférer ces archives.
Ça, c'est une question très sensible et très politique. J'ai envie de ne pas
répondre. Dois-je comprendre que vous ne souhaitez pas vous prononcer
à la question,
sur ce point?
Mais bon, ouais. Ces archives sont très importantes. Bon, je les ai visitées à Arusha, donc j'ai quitté Arusha le 1er janvier 2016. Mais je suis retourné après pour visiter les archives. Je suis d'ailleurs en train de faire un travail là-dessus. Bon, là où ils se trouvent, ils sont bien protégés. Si un jour le Rwanda parvient à les avoir, tant mieux, c'est son histoire, c'est quand même l'histoire des Rwandais, le génocide des Tutsis concerne d'abord les Rwandais, mais c'est aussi un crime qui a touché toute l'humanité. Non,
donc j'entends, vous le souhaitez, vous pensez que c'est souhaitable, il faut que ces archives reviennent au Rwanda?
Oui, je crois que c'est légitime.
Rémi Korman, à la fois peut-être sur ces archives du tribunal pénal international pour le Rwanda, et puis peut-être évidemment celles aussi du côté de la France. On parle beaucoup, à raison évidemment l'implication, bien sûr, de la France dans tout cela. Des archives ont déjà été ouvertes au fur et à mesure. Il y a évidemment un certain nombre de procédures qui ont permis leur ouverture, mais on n'a pas d'ouverture, j'allais dire, automatisée. Est-ce que, même chose, est-ce que c'est souhaitable? Comment est-ce qu'on fait pour déclassifier? Et comment est-ce que, justement, on peut construire à partir de tout cela une politique mémorielle?
Alors d'abord, peut-être sur les archives du tribunal pénal, elles sont aussi extrêmement riches. Ce qui est assez intéressant, c'est quand on compare justement avec les archives des procès Gachacha, c'est qu'on a deux types de justice très différentes. Au tribunal pénal international, vous aviez aussi des témoins rwandais, bien sûr, qui étaient là. Mais par exemple, les transcriptions qui ont été faites sont ou en français ou en anglais et pas en Kinyarwanda. Là où tout est en Kinyarwanda, dans les archives Gachacha. Enfin, c'est vraiment deux types de justice différentes qui donnent deux types d'archives différentes. Et j'allais dire le croisement de ces sources, c'est ça qui sera intéressant aussi pour les historiens. Après, du point de vue de l'État rwandais, c'est évident qu'il y a une volonté de dire, voilà, si c'est notre histoire, pourquoi ces archives seraient en dehors? Et c'est pas uniquement une question d'ailleurs, je trouve, pour l'État rwandais, c'est que c'est aussi une question pour la recherche, par exemple, puisque elles sont maintenant, ces archives, à Arusha, où le tribunal ne fonctionne plus. Il y a un mécanisme de transition qui termine le tribunal. Sauf que c'est assez compliqué, en fait, finalement, d'y avoir accès. Donc, on a des archives qui sont gardées, mais les chercheurs utilisent plus, finalement, la base de données numérisée de ces archives qui est en ligne que d'aller les voir. Ce qui pose évidemment des questions, c'est à quoi ça sert de garder des archives loin du Rwanda et si les chercheurs peuvent difficilement s'y rendre aussi.
Dans l'hypothèse où le transfert serait accepté par le Tribunal pénal international sur le Rwanda, est-ce qu'on sait comment est-ce qu'elle serait accueillie, gérée au Rwanda? Je sais qu'il y a une loi justement qui a été votée, je crois, en 2014 avec une nouvelle autorité en charge des archives. Est-ce qu'on a un peu une idée de comment ça pourrait se passer?
Je pense qu'on en est... On est quand même assez loin pour l'instant d'un transfert possible de ces archives parce que il y a quand même des archives sensibles en assez grand nombre et c'est autour de ça aussi que se posait la question, c'est est-ce qu'on peut tout transférer ou non. Il y a aussi des efforts à mon avis au niveau du Rwanda en termes d'archivistes parce qu'il y a encore un manque là-dessus de professionnalisation de ce milieu professionnel au Rwanda concernant l'archive et les archivistes. Sur la question de la France, si j'y viens, c'est vrai que les enjeux sont assez importants. Quand on travaille sur l'histoire franco-rwandaise, j'ai envie de dire, ce qui, à titre personnel, n'est pas mon cas. La controverse, en fait, elle est très ancienne. Je pense qu'il faut quand même rappeler qu'il y a quand même eu une mission d'information parlementaire en 98 qui a participé à la déclassification d'un certain nombre d'archives. Et donc, on a beaucoup déjà de documentation. On ne peut pas dire qu'on a si peu de choses. Après, il y a des archives, par exemple des archives militaires, les archives de la défense, qui là seraient nécessaires pour comprendre un certain nombre de choses au niveau de l'engagement militaire français au Rwanda. C'est évidemment assez difficile parce que il y a des accusations fortes sur le rôle de la France au Rwanda avant le génocide, mais aussi pendant et même après. Et la controverse est en cours, comme on le voit encore en ce moment.
Peu de chance qu'on arrive à une déclassification, en tout cas à moyen terme. Très peu de chance.
Alors, il y a des annonces régulières. Déjà, François Hollande avait fait une annonce d'une déclassification à venir qui, de fait, n'a pas eu lieu. On sait que dans quelques jours, Emmanuel Macron parlera de ça, a priori, de cette question des archives. Il était question d'une commission d'historiens sur ces archives. Après, on va voir ce qu'il en est et surtout, quel serait le périmètre des archives qui peuvent être déclassifiées. Il est aussi intéressant de voir quelles sont les réticences et par qui. Et qu'est-ce que ça dit, en fait, aussi de la controverse?
Encore un mot, François-Xavier Nsonsouera, sur ces archives françaises.
Oui.
Avant d'accueillir...
Bon, malheureusement, moi, je ne les connais pas, donc je connais peu de choses là-dessus. Surtout que, bon, je n'ai pas travaillé là-dessus. Mais, personnellement, j'aimerais que les gens... Oui, et accès à ces archives parce que ça permettra de connaître la vérité et de normaliser les relations entre les deux pays.
Et au-delà de la question de ces archives, de la question de ces archives et évidemment du caractère particulièrement politique de tout cela, on voit bien que vous êtes un peu réticent à l'évoquer. Mais si on regarde, j'allais dire, à hauteur d'homme, comment les choses se font. Par exemple, vous, je crois que vous avez un fils. Comment faites-vous pour lui parler, lui transmettre cette mémoire-là?
C'est une question très difficile. Lui, souvent, il me dit que je ne lui dis pas tout. Je ne lui dis pas tout. Et j'ai envie de ne pas lui dire tout dans la mesure où je ne voudrais pas l'influencer. Parce que, je le dis souvent, nous ne pouvons pas faire fi de notre histoire personnelle. Quand je parle du génocide des Tutsis, je ne peux pas ne pas m'empêcher, je dirais, à prendre en compte mon propre vécu, ce que j'ai vécu, mon passé. Donc, c'est difficile de prétendre d'être 100% neutre. parce qu'il y a son histoire. Et quand je parle du génocide en mon fils, il y a des endroits où j'ai envie de m'arrêter et de dire, il faut qu'il découvre ça lui-même, que je ne lui transmette pas, je dirais, tout mon passé, qu'il puisse construire son futur lui-même, en faisant, comment dire, en allant au-delà de l'histoire personnelle, je dirais, de sa famille. Donc, oui. C'est difficile, c'est un exercice très, très difficile.
On va retrouver une nouvelle invitée, Esther Moujawayo, depuis l'Allemagne. Bonjour Esther Moujawayo.
Bonjour.
Bonjour, merci infiniment d'être avec nous ce matin par téléphone. Alors je vais donner quelques éléments de votre parcours, de votre biographie pour nos auditeurs. Vous êtes une rescapée du génocide dans lequel vous avez perdu une grande partie de votre famille. Vous avez travaillé longtemps pour l'ONG Oxfam International et puis au lendemain du génocide, vous êtes engagée dans diverses organisations en soutien aux femmes rwandaises. Je pense notamment à AVEGA, qui est une association des veuves du génocide à Gaozo. Et puis en 99, vous déménagez en Allemagne avec vos filles, votre deuxième mari. Et puis 2001, vous travaillez comme thérapeute en traumatologie pour les réfugiés africains à Düsseldorf. Et vous êtes l'auteur d'un ouvrage intitulé « Survivante » qui a été réédité aux éditions de l'Aube en mars 2019. Et dès l'entame de votre livre, vous évoquez la question de la mémoire, Esther Moujawayo. Vous expliquez que la majeure partie des Hutus, coupables ou pas, ne préfèrent pas parler de ce qui s'est passé. On choisit au fond d'effacer. Et quant aux Tutsis, c'est un peu pareil. On en a assez parlé, disent-ils. Je vous cite, je sais que je généralise, mais de façon collective au Rwanda, on a senti qu'il ne fallait pas raconter. Personne ne nous a demandé explicitement de nous taire. On a tout de suite senti qu'il fallait se taire. Et dès la fin du génocide en juillet 94, on s'est tu. Est-ce que vous diriez que 25 ans après, cette injonction à se taire, elle est toujours là?
Pardon ?
Est-ce que vous diriez que 25 ans après le génocide, Esther Moujawayo, cette injonction à se taire est toujours aussi présente ?
Non, je pense que c'est pas une injonction qui est faite clairement, mais c'est un peu sous-tendu. On sent que déjà, surtout du côté des... En tout cas, pas du côté des rescapés, mais pour les autres, on sent que ça gêne, on voudrait qu'on oublie, on voudrait qu'on dise tout va bien, maintenant, ça fait 25 ans, c'est passé. Mais je me dis, non, c'est passé, mais il y a beaucoup, beaucoup de séquelles. Il y a les enfants qui sont nés après ou qui étaient tout petits, qui n'ont aucune mémoire de qui, d'où ils viennent, qui étaient les leurs. À part les statistiques, à part que c'est 1 million de Tutsis qui ont été tués, mais c'était des parents, c'était des frères, c'était des humains, on venait de quelque part. Donc c'est un peu tout ce vide qui a été créé par le génocide que moi je me dis, ça doit être gardé, ça doit être connu, ça doit être dit.
Vous expliquez d'ailleurs que souvent dans le livre, les gens ne pouvaient pas supporter d'entendre ce récit, que c'était trop pour eux et donc refusaient de l'entendre, alors que vous, évidemment, vous n'aviez pas le luxe d'échapper à cette histoire. Et finalement, tout cela a fait que, en tout cas dans un premier temps, cette parole, elle se libère au sein de la communauté des victimes dans un premier temps.
Oui, la parole se libère, mais en fait... Ce qui s'est passé, c'est tellement au-delà de ce qu'un être humain pouvait voir, pouvait entendre. Alors ceux qui l'ont subi, on n'a pas le choix. Là, nous, on n'a pas de télécommande pour fermer. Mais pour les autres, tout un chacun qui peut se permettre d'avoir une télécommande, et quand c'est trop, c'est horrible. Et c'est vrai, ça l'était. Et maintenant, même dans la commémoration, quand nous réécoutons les histoires, comment les gens ont été tués, comment les Tutsis ont été tués, il y a quelqu'un qui a dit « les tuer ». À la limite, les tuer, ça allait encore, c'est cynique. Mais pourquoi les tuer ainsi? Pourquoi un tel déchaînement? Et ce que ça laisse dans le psyché de la personne qui en était victime, il y a eu même des gens qui se demandaient non. Là, on doit vraiment avoir fait quelque chose parce que sinon, c'est pas possible. Et pourtant, c'est possible. C'est tout un acharnement sur des gens parce qu'ils sont tout simplement Tutsis. C'est tout un acharnement pour qu'on ne parle plus de Tutsis. Et là, je dis, la mémoire, c'est pas du tout question de haine ou de vengeance, mais c'est surtout pour qu'on puisse prévenir pour le futur.
Et pourquoi choisir d'écrire ce livre, justement? Pour prévenir? Pour, dans un travail de reconstruction personnelle, dans un travail de transmission de la mémoire, pour voilà, faire connaître à la communauté, à la famille, au pays? Pourquoi écrire?
Et voilà, mais je pense que vous avez résumé tous les éléments que j'ai mis là-dedans. Justement, J'avais des enfants qui étaient petits. Ces enfants, il n'y a plus, si je n'écris pas ce livre, il n'y a aucune trace de leur père, de leur grand-mère, de leur grand-père, de leur cousin, parce qu'ils ont été tous tués. Il n'y a pas une trace physique du lieu. D'où est-ce que nous venons? On vient tous de quelque part, puisque tout a été détruit, tout a été rasé. Alors, je l'écris pour dire qu'il y avait une vie avant. Les gens que vous ne connaissez pas, que vous n'avez pas eu la chance de connaître, les collines que vous n'avez pas eu la chance de fréquenter, la vie d'avant que moi j'ai eu la chance d'avoir dans mon enfance, qu'est-ce que je donne à mes enfants, qu'est-ce que je donne à mes petits-enfants? Mais de l'autre côté aussi, je l'écris, d'ailleurs à la première page, je dis, j'accuse beaucoup. Et c'est ça ce qui est terrible avec le génocide des Tutsis au Rwanda. C'était un génocide connu, l'ONU était là pour ça. Dès que ça a été déclenché, tout autour du Rwanda, si on mettait toutes les forces qui y étaient, le général Dallaire a dit, il y avait presque 4000 soldats d'intervention, bien équipés, qui pouvaient faire quelque chose. Ils ne l'ont pas fait. Ils ont choisi de ne pas le faire. Ça doit être connu. Qu'on a abandonné 1 million de gens à leur sort, juste parce qu'ils étaient tout de suite, et puis ils n'étaient pas intéressants économiquement. Ça, c'est un crime d'humanité, c'est un génocide. J'écris aussi, je le dis aussi, pour que chacun prenne ses responsabilités. D'abord, et en premier lieu, ceux qui ont tué, ceux qui ont planifié ce génocide, donc le gouvernement rwandais de 1994, mais tout le reste qui a regardé ailleurs. Il y avait une convention de Genève concernant les génocides. Cette convention était là, l'ONU était là, la France, votre pays, elle a participé, elle a aidé ceux qui commettaient ce génocide. Maintenant, on refuse même de nous ouvrir les archives pour qu'on voit qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'ils ont fait, ça doit être dit. Et d'un côté, pour rassurer les rescapés, mais aussi pour dire on ne tolère pas ça dans d'autres lieux. Pourquoi on ne tolérerait pas dans d'autres lieux si ça s'est passé et qu'on n'a rien fait du tout? Donc il faut faire quelque chose quand même en signe de leçon. Ne fût-ce qu'une leçon, on ne permet pas ça. Et je pense maintenant aussi, dans nos associations de rescapés, on se bat comme des folles, on essaie d'avoir une vie décente. Pour les personnes qui ont été affectées, nous avons des personnes qui ont été affectées dans leur corps, qui ont encore des séquelles. On n'a pu rien faire à l'époque, mais on peut encore faire quelque chose. S'il y avait un fonds qui peut les indemniser, qu'on n'a pas besoin de demander à qui que ce soit. Il y a juste le fonds d'assistance que le gouvernement rwandais a mis en place. Mais c'est un fonds d'assistance pour rescapés nécessiteux. Mais ce n'est pas un droit. Et il faudrait un fonds qui indemnise les gens à qui on a quand même tout pris, juste parce qu'ils sont nés.
Je voudrais peut-être faire un dernier tour de table, on arrive presque au terme de cette émission, mais entendre les réactions de François-Xavier Nsonsouera et de Rémi Corman. François-Xavier Nsonsouera, d'abord depuis La Haye. Toute dernière action en guise de conclusion.
Je... 25 ans après le génocide des Tutsis, les rescapés continuent de vivre quand même dans... Je ne dirais pas dans la précarité parce que les gens se sont reconstruits, mais cette reconstruction a été très, très difficile. J'en profite d'ailleurs pour rendre hommage aux rescapés du génocide des Tutsis parce qu'on n'en parlait pas souvent. La réconciliation nationale, ce sont d'abord eux qui l'ont permise. On parlait souvent de la politique du gouvernement, de l'Union nationale, du gouvernement actuel qui apprenait et qui continue de prôner la reconstruction et la réconciliation nationale. Mais la plus grande part dans ce travail de reconstruction revient aux rescapés du génocide qui ont accepté de vivre avec les familles de leurs bourreaux, avec les bourreaux qui ont purgé leur peine et qui vivent à côté d'eux, c'est rescapé du génocide des Tutsis sur les collines rwandaises. Donc, ce travail de réconciliation nationale et même de reconstruction du pays revient d'abord à ces rescapés. Et on l'oublie souvent.
Rémi Corman, est-ce que vous êtes d'accord pour dire que peut-être aujourd'hui, dans ces politiques mémorielles de l'État rwandais, on oublie justement ces rescapés?
J'allais dire,
rapprochez-vous
oui,
peut-être un tout petit peu du micro.
Oui, oui, j'allais dire justement, oui, quand on parle de la politique de mémoire ou des usages de la mémoire, de la diplomatie de la mémoire, etc., qu'on a des approches souvent surplombantes sur ces questions-là, on oublie aussi justement soit une mémoire sociale ou individuelle et ce qu'est le génocide pour les rescapés. C'est-à-dire ce qu'il est concrètement, ce que c'est cette mémoire au présent ou le génocide au présent, parce qu'il est là... Il y a la question du traumatisme, dont on n'a pas parlé, mais qui est évidemment une question même majeure sur les questions mémorielles au Rwanda. J'ai envie de dire, pour l'État rwandais, c'est compliqué, parce qu'il y a la volonté d'aller de l'avant, de faire une nation forte, de passer en partie à autre chose, et en même temps, il y a aussi une vraie attention, je pense, par exemple, à la question du traumatisme. C'est-à-dire qu'il y a eu des vrais efforts qui ont été faits sur ces questions-là. Pour les rescapés, ce sera toujours insuffisant, j'ai envie de dire. Et comme le disait Esther Moujawayo, c'est vrai qu'il n'y a pas de fonds d'indemnisation, il y a plein de choses qui manquent encore. Donc voilà, c'est forcément insuffisant.
Esther Moujawayo, peut-être une toute dernière question, on arrive au terme de l'émission, mais je voulais quand même vous la poser. Ça fait 25 ans maintenant que vous apportez votre témoignage sur les génocides des Tutsis au Rwanda. Est-ce que vous ressentez parfois une lassitude? Est-ce que vous dites que peut-être un jour vous cesserez de témoigner ou finalement vous êtes condamné à témoigner?
Non, je ne pense pas qu'il y ait une lassitude. Non, je vieillis tout simplement. Mais je suis rassurée. De toute façon, je viens d'un week-end avec des jeunes rescapés. Je suis quand même rassurée. Le flambeau est passé, la relève est assurée. Les jeunes continuent. Et j'ai vraiment passé un week-end avec des jeunes qui étaient très petits, qui ont une colère de ne pas savoir qui ils sont, toute cette identité. Et il y a le collègue qui vient de parler du traumatisme qu'il y a. Justement, 25 ans, il y a beaucoup qui pensent que le temps guérit. Il y a beaucoup de choses qui se sont mises en place avec le temps, mais le temps ne guérit pas une blessure pareille. Et il faut vraiment qu'on reste vigilant. Et là, comme vous me posez la question, je reste vigilant. Je veux que cette histoire de traumatisme, je veux que cette histoire des blessures non visibles soit adressée. Parce que le risque que vous voyez, on le voit ici en Occident avec la Shoah, le génocide des Juifs ou des Arméniens. Maintenant, on est à des troisièmes, quatrièmes générations. Et des fois, qui en souffrent, qui souffrent des silences, qui souffrent des non-dits. Et c'est pour ça que nous, j'allais dire, nous avons la chance. Mais quelque part, c'est une chance quand même que nous en avons parlé, que nous en sommes conscients. En tout cas, qu'on fait tout pour essayer de protéger la génération à venir.
Merci beaucoup.
Pour ne pas transmettre, en plus de tout le vide qu'il y a eu dans leur vie, mais qu'on transmette aussi un traumatisme. Ça, nous devons faire un grand, grand effort pour l'éviter.
Merci beaucoup Esther Moujawayo d'avoir été avec nous ce matin en direct par téléphone depuis l'Allemagne. Je rappellerai votre ouvrage Survivante. Un grand merci également à François-Xavier Nsouzouera qui était avec nous depuis La Haye. L'abattante, renaître après le génocide des Tutsis, paru aux éditions Fauve. Merci beaucoup Rémi Corman. Il y avait encore tant et tant de choses à dire sur les politiques mémorielles au Rwanda. J'invite les auditeurs à nous retrouver demain à 11h puisque nous allons poursuivre toute cette semaine notre série consacrée au Rwanda. 11h53 minutes l'heure pour nous de retrouver Brice Couturier et son Tour du Monde des Idées.
Le Tour du Monde des Idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Et ce matin, vous nous parlez de populisme ?
Encore une fois, oui. En bientôt 8 années de chronique quotidienne sur cette antenne, combien en aurais-je consacré à la montée du populisme, à tenter d'en analyser les causes, à en dénoncer les effets ? J'ai été le premier en France à vous parler des essayistes tels que Jan Werner Müller, Yascha Mounk ou David Goodhart, qui ont eux-mêmes posé les termes du problème avec une longueur d'avance. C'est la vocation même de cette radio de ne pas répéter ce que tout le monde croit savoir, ou de suivre les ornières toutes tracées, mais de pressentir l'émergence de nouvelles questions. De voir se destiner de nouveaux clivages. Alors, ai-je fatigué les auditeurs par mes mises en garde ? Eh bien, c'est à eux de le dire, mais force est de constater que les contestations radicales de la démocratie libérale qui ne constituaient qu'un phénomène exotique éclos dans les périphéries de l'ère culturelle occidentale comme le Venezuela ou la Turquie ou dans des pays ne possédant pas de fortes traditions démocratiques comme la Hongrie ou la Pologne ont récemment atteint des démocraties parlementaires historiques réputés pour le sens de la mesure et du compromis, comme la Grande-Bretagne du Brexit ou les États-Unis de Donald Trump. C'est donc en son cœur que la démocratie parlementaire et représentative est désormais atteinte. Piquer un monstre à coups d'épingle est vain, cela procure de médiocres satisfactions qui donnent tout au plus l'illusion d'agir. Voilà ce qu'écrivait le dissident polonais futur prix Nobel Czesław Miłosz dans Lettres internationales en 1985. Oui, dénoncer les dérives populistes, les menaces bien réelles que ces régimes font peser sur l'état de droit, sur les libertés publiques, sur l'indépendance de la justice et des médias, indiquer les risques d'intolérance, de dictature majoritaire qu'ils comportent, nous l'avons tous fait, mais avec les résultats paradoxaux qu'on a observés notamment lors de la campagne électorale présidentielle de 2016 aux États-Unis. Plus les médias classiques comme le New York Times ou le Washington Post dénonçaient les extravagances de Donald Trump, et plus celui-ci apparaissait comme le candidat anti-système et donc comme le porte-voix des « real people », des vrais gens, face à l'élite méprisante et lointaine.
Et puis Brice, dans le Figaro ce matin, Jacques Julliard pose la question fondamentale, la seule qui importe réellement, ce populisme qui monte, est-il compatible avec la démocratie?
Oui, et la réponse qu'il y apporte met en lumière le fait que la démocratie en réalité peut inspirer deux systèmes de gouvernement bien différents. Le premier repose sur le principe de la délégation. En votant pour un représentant, nous lui confions notre petite parcelle de souveraineté sur la base des engagements auxquels il a souscrit. C'est ce qu'on appelle la démocratie parlementaire. Le second repose sur le principe de l'incarnation. Je cite Julliard. Le chef populiste n'est pas le délégué du peuple. Il est, de par sa personnalité, ses idées, son histoire, son discours, la matérialisation du peuple lui-même. Il y a comme un transfert mystique de souveraineté. La démocratie représentative met en valeur la diversité du peuple, elle protège les droits des minorités. La démocratie populiste, elle, privilégie l'unité du peuple groupée autour de son chef. Et si l'on suit bien Julliard, une démocratie équilibrée reposerait sur ses deux pieds. Après tout, De Gaulle et Churchill pourraient parfaitement être qualifiés aujourd'hui de populistes. Ont-ils été pour autant de mauvais démocrates? Eh bien, c'est exactement ce qu'écrit dans son dernier livre un défenseur fort pertinent du populisme, le Québécois Mathieu Bock-Côté. Dans cet essai qui s'appelle « L'Empire du politiquement correct » qui vient de paraître aux éditions du Cerf, Bock-Côté écrit qu'il soutient les populistes, il soutient que les populistes ne sont pas les ennemis de la démocratie, mais bien au contraire, ses véritables sauveteurs. Les démocrates libéraux ou progressistes, comme ils les appellent, s'attachent prioritairement, dit-il, à la dimension formelle du jeu démocratique. C'est pourquoi ils ont l'obsession des normes au point de renâcler devant la décision politique. Ils préfèrent le pilotage automatique, la gouvernance, plutôt que la nécessité de répondre dans l'urgence à l'événement. Et c'est en cela que notre Union européenne apparaît en effet comme l'exemple le plus accompli de la démocratie libérale dans le monde. Les démocrates populistes, au contraire, s'attachent, écrit Bock-Côté, à la dimension substantielle de la démocratie, le peuple. Pour ce souverainiste québécois, attaché à défendre les droits de son peuple, rappelons-le, ultime vestige francophone dans un continent anglo-saxon, l'épaisseur historico-culturelle d'un peuple est digne de respect. Les nations ont le droit de persévérer dans leur existence, car le démos de la démocratie est, je cite, toujours un peuple particulier avec son histoire, sa culture, ses mœurs, ses institutions et ses frontières. Or, les nations, en particulier les plus petites, lui paraissent menacées par la mondialisation et par ce qu'il appelle le progressisme diversitaire. Dans le cadre plus général d'une modernité qui s'est emballée, une élite sociale, politique, culturelle, médiatique réclamerait la déconstruction des identités héritées. Face aux résistances des peuples, elle se propose de les rééduquer par le biais d'une propagande qu'elle baptise « pédagogie » et dont le politiquement correct serait, selon Bock-Côté, l'instrument privilégié.
Merci beaucoup Brice Couturier pour cette chronique qu'on peut retrouver sur le site de France Culture, www.franceculture.fr.